La technologie reste un mystère pour toi. Si tu ne sais pas qu'un smartphone sert aussi à téléphoner, on ne peut plus rien pour toi. Enfin presque, seules trois lettres peuvent te sauver. ATG.
Le podcast des champions de l'information. Réponds à vos questions. L'agence Toolgeek, un vacant beau caston. Prêt pour la transmission et la mission. L'agence Toolgeek, Toolgeek, c'est super pratique. L'agence Toolgeek, premier sur le numérique. L'agence Toolgeek, t'as ton geek nostalgique. L'agence Toolgeek, c'est plus cher que ta snack.
Bonsoir les geeks.
Hello,
bonsoir. Bonsoir les amis, nous sommes le jeudi 18 mai et nous enregistrons l'ATG je crois numéro 83 si je ne me trompe pas.
On t'arrête plus Mister. Wow,
ça, c'est dingue. Bonsoir Lord ton père.
Bonsoir Mister D, bonsoir les amis.
Bonsoir.
Bonsoir Herbie.
Bonsoir.
Et bonsoir Pascarbonne.
Bonsoir 83.
Et nous avons un invité.
Et nous avons un invité ce soir, la personne de Jérôme qu'on appelle aussi Genma sur les réseaux sociaux.
Oui, bonsoir tout le monde.
Genma qui vient ce soir nous parler d'un sujet extrêmement sérieux puisque on va essayer de faire ça avec humour
Sécurité.
La sécurité. Bah, je sais pas si vous en avez entendu parler la semaine dernière, mais il y a eu de fortes attaques informatiques de pirates,
ransomware.
Les ransomware. On va parler de tout ça ce soir. Dans un épisode assez court parce qu'on va essayer d'en faire deux ce soir pour que vous en ayez un par semaine.
Enfin, on le fait la semaine prochaine, le deuxième.
Oui, c'est ça. On se translate la semaine prochaine grâce à notre DeLorean qui voyage dans le temps. Sinon, dans les annonces, il y a toujours une nuit au max en vente. Il y en a toujours une en vente. Il y a la nuit du 1er juillet qui est la nuit requin. Des requins qui mangent les gens. Donc, sympa pour démarrer l'été.
Et le 3 juillet, c'est mon anniversaire.
Oui, juste avant 2 juillet, 1er juillet, tu vas pouvoir...
N'hésitez pas.
Tu peux venir à Nuomax et te demander à ce qu'on t'amène des cadeaux.
Ça serait pas mal.
Ça serait sympa.
Si on me tweet qu'on m'offre des cadeaux, je viens.
D'accord. Ouais. En tout cas, on passera Les Dents de la Mer, éternel chef-d'œuvre de Steven Spielberg.
Sharknado 1 et Sharknado 2.
Non, pas du tout. Pour le coup, ça vaut tellement le coup de le voir. Là, c'est un DCP d'Universal qui est magnifique, qui a été entièrement remasterisé. Et donc, la copie de Jaws est sublime. Et ça vaut le coup de le voir au Max Linder parce que là, ça va vraiment être très beau. Ensuite, on fera. Alors, je ne sais pas dans quel ordre, parce qu'on n'a pas encore décidé, mais il y aura Open Waters, qui est un film du début des années 2000 qui fait très très peur, avec des histoires de requins, bien sûr. Et un film de l'année dernière qui, est passé malheureusement un peu
inaperçu. C'est Closed Waters.
C'est The Shallows, qui est un excellent film de requins, avec une très belle surfeuse qui se retrouve coincée à quelques dizaines de mètres de la plage, sur un rocher, et entourée de requins. Et c'est un excellentissime film. Si vous aimez les films qui font peur, parce que là ça va vraiment faire peur, et les bons films de requins, pas les gros nanars, même si on les aime aussi, vous venez à la nuit du 1er juillet. Post-Carbone, tu vas ajouter quelque chose.
Tu connais la phrase de Bigard sur les requins.
Qu'est-ce qu'il a dit Bigard?
La dernière phrase qu'il a dit, c'est: t'inquiète pas chérie, c'est que des dauphins.
Ok. Très bien. Je vois que l'humour est toujours présent dans cet ATG, c'est formidable. Ça va Jérémy, tu as pas trop peur?
Non, ça va, ça va.
Non, parce qu'ils sont
il connaît.
Ouais, il sait,
oui.
Bon, allez, on va être un peu sérieux, on va parler.
Allez, fais péter
la mission. Ce qu'il sait pas, c'est que les émissions, on les diffuse montées et il a pas les séquences coupées entre les deux.
C'est ça.
Donc, il a aucune idée de ce qu'il va subir en réalité.
Bon, on
a le droit de se marrer quand
on
même
a le droit
sur
de
les
se marrer.
Ransomware.
Exactement, bon, on a le droit de se marrer.
Bon.
Les mecs de Renault, ils se marrent pas.
Tu rigoles. Alors, Tiga, vous êtes prêts?
Oui, chef.
Oui, chef. Oui.
Ah, tu vois, il est déjà bien rodé, Jérémy. Il connaît la routine militaire, la stratégie que nous adoptons à chaque émission pour interroger les invités.
C'est ça. Genma, c'est un petit côté commandant. Non,
Genma,
chef,
Genma.
Genma.
Jérôme. Jérôme, c'est mieux.
On dit Jérôme, d'accord.
Bah, Jérôme, c'est plus simple. Jérôme.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Alors dans la vie, je suis informaticien, comme beaucoup de monde, et je travaille donc dans une société qui fait du logiciel libre qui s'appelle l'Inagora.
D'accord. Et en fait, si on va sur ton blog, parce que tu as un blog.
Tout à fait.
Qui s'appelle.
Le blog de Genma, tout simplement. blog.genma.fr.
C'est pas compliqué. Ouais. On y trouve de nombreux articles sur de nombreux sujets, mais principalement, il y a quand même un sujet qui te passionne, c'est la sécurité informatique.
Ah. Ouais, tout à fait. Ce que j'essaye de faire, en fait, c'est de la vulgarisation autour de la thématique de la sécurité informatique. Donc moi j'appelle ça en fait tout simplement de l'hygiène numérique.
Ah, joli terme.
Belle formule.
Alors eh ben, on aurait bien besoin d'un peu d'hygiène en matière de numérique.
Alors, bah, ce soir on va se laver les dents.
C'est ça, parce que la semaine dernière, vous en avez tous entendu parler, les journaux en ont fait leur gros titre, c'est l'attaque, la fameuse attaque de hackers mondiaux qui ont touché Renault, qui ont touché des tas d'entreprises, qui ont paralysé des entreprises. Et donc ça a été un peu panique à bord. On a l'impression que c'était la troisième guerre mondiale. En fait,
outre-Manche, il y avait toute une partie du système de la sécurité sociale britannique, donc des hôpitaux qui étaient bloqués.
Exactement.
Là, pour le coup, il y a une vraie inquiétude.
Alors, le ransomware, on va commencer par là, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Jérôme, c'est quoi le ransomware?
Donc en fait, comme son nom l'indique, il y a rançon qui est on va demander des sous et ware comme software, comme le logiciel. En fait, le ransomware, c'est une nouvelle forme de virus, ce qu'on appelle les cryptovirus. L'idée, c'est on va crypter, on va chiffrer votre disque dur, on va cacher vos données et on va vous dire voilà, pour pouvoir décrypter, il va falloir payer.
C'est salaud. Puis en Bitcoin en plus, j'ai vu ça.
Et en Bitcoin, parce que ce n'est pas traçable.
Et parfois, comme dans les vrais rançons et dans la vie, on ne te rend pas ton enfant.
Tout à fait. Oui, parce que alors, le principe, c'est que vous ouvrez ce virus par inadvertance. Alors, comment justement? Parce que moi, ça me paraît délirant. Bon, alors déjà, moi, je suis sur Mac, donc je suis beaucoup moins concerné.
Je crois que c'est une faille de Windows.
C'est une faille de Windows. Une de plus, parce qu'il y en a juste un milliard. Mais je pense qu'on est autant sur Mac, sauf que les pirateurs ne s'y intéressent
pas. À ce niveau-là, c'est plus des failles. Genma,
comment on attrape cette maladie?
Genma, ou Jérôme.
Oui, en fait, là, donc, dans le cas de WannaCry, parce que maintenant, en fait, WannaCry, vous allez pleurer. En fait, c'est.
Non, ça serait GonnaCry.
Ouais, j'ai envie de pleurer.
Ouais. En fait, c'est que ça exploite. Donc, il y a un petit historique un peu compliqué. En fait, c'est que la NSA avait repéré au départ une faille de sécurité, en fait, dans Windows. Donc, c'est un trou, en fait, on va dire, au sein de Windows qui n'avait jamais dévoilé. Un trou dans le mur. Voilà, qu'ils n'avaient jamais dévoilé et qu'ils gardaient sous le coude pour faire leur espionnage comme ils savent le faire. Et il y a un groupe qui s'appelle, alors c'est les Shadow Brokers, qui ont réussi à pirater la NSA, donc c'est donné le niveau, qui ont libéré les logiciels que la NSA utilisait en disant voilà, c'est ce que la NSA utilise.
Faites-vous plaisir.
Et donc il y a des gens qui ont vu, on peut utiliser, en fait, faire un virus qui va utiliser cette faille de sécurité-là. Et donc ils ont fait un virus. Donc là, la spécialité, en fait, de WannaCry, c'est que ça va cumuler plusieurs formes de virus. Alors, peut-être que les plus anciens d'entre nous, du temps de Windows XP, se rappellent des virus comme... rappelez-moi les noms, j'ai retrouvé dans mes notes. Le virus qui se répandait tout seul sur Internet. Ça va nous rappeler dans les débuts des années 2000.
On s'en souvient tous, non?
Explique-nous son fonctionnement.
Ouais, c'était en tout cas la grande époque de McAfee et compagnie.
Ouais, l'idée c'est que il suffit qu'il y ait en fait un serveur qui n'a pas ses mises à jour, soit accessible facilement sur Internet. Donc le virus en question va rentrer sur l'ordinateur en question, se répandre après sur tous les ordinateurs du réseau qui eux-mêmes ont ce trou. Donc c'est le principe d'un verre. Et en plus, enfin, il va regarder tous les documents qu'il y a sur l'ordinateur et il va les crypté, on va dire, et il y a un message qui va s'afficher en disant voilà, si vous voulez récupérer vos documents, vous cliquez ici, vous allez payer en Bitcoin et on vous donnera en fait un mot de passe, une clé de déchiffrement. On pourra peut-être expliquer après très simplement tout ce qui est cryptage, décryptage, etc. pour récupérer vos données. Et donc la faille de sécurité en question, c'était une faille en fait sur ce qu'on appelle Samba, c'est les partages de fichiers pour faire simple.
Rien à voir avec la danse.
Avec le roi lion.
Non, c'est pas le roi lion.
C'est Simba le roi lion.
Excusez-moi.
Pas Samba. Non.
Et donc, en fait, c'est quand on a un réseau d'entreprise, on va partager sur l'intranet des documents. Et là, en fait, c'est quelque chose qui existait depuis le temps de Windows XP et qui touchait toutes les versions de Windows. Donc Windows XP, Windows 2000, Windows 7, 8, jusqu'à 10.
Ah oui, d'accord. Donc c'est un truc qui date pas d'hier, en fait, au niveau de la faille de sécurité.
Oui, tout à fait.
J'ai un truc à dire. Par exemple, quand un constructeur automobile nous fait une bagnole de merde qui pollue, il en bave un peu.
Oui.
Bah pourquoi Windows ils en bavent pas? Non, il devrait en baver.
Là, ah bah ça, c'est pas la première fois qu'il en parle. Ouais, ouais, non seulement il s'excuse pas, mais en plus ils vendent des logiciels qui sont pas terminés.
Class action. Bah ouais.
Parce que les utilisateurs sont des cons.
Ah.
Je
résume.
Voilà. Mais je pense que quand t'acceptes de démarrer Windows, t'acceptes de démarrer un truc tout pourri.
Non, non, c'est ça.
C'est donc ça les conditions.
C'est ça les conditions. Ça doit être
alors, en fait, moi j'ai une façon d'expliquer ça. J'ai envie de dire, c'est un petit peu, c'est comme quand on a une maison où il y a des ravalements de façade, où il faut faire le ménage. Si on sort pas les poubelles, si on nettoie jamais sa maison, il y a la poussière qui s'accumule, il y a les poubelles qui s'accumulent.
Mais si le constructeur a fait un travail de merde à l'origine.
Ouais. Il y a des failles dans la fondation quand même, il y a des trous dans la mansarde.
Tu dis, il faut mettre à jour Windows. Mais alors, dans le cas d'XP, les mises à jour sont terminées.
Donc là, ce qu'on t'explique, c'est globalement.
Tu devais pas utiliser XP en fait.
Là, c'est au bout d'un moment, ta maison. En fait, l'image que j'avais trouvée qui était pas trop mal. C'est au bout d'un moment, tu vois, il y a des normes, par exemple pour l'électricité, et de temps en temps on dit, ah bah finalement les fils, ou les ampoules en porcelaine, les choses comme ça, c'est plus trop à la norme, c'est faut refaire son tableau électrique.
Enfin, XP, ça date, c'est pas si vieux que ça.
Oui, mais à l'échelle de l'informatique, c'est très ancien.
Non seulement c'est très ancien, mais ça a été le système, c'est quasiment le système informatique qui a été maintenu le plus longtemps dans ce que tu as sur le marché.
Ça, c'est vrai.
Et bon, bah,
les industriels
moment,
l'adoraient parce qu'il était
Microsoft
quand même
arrêté
un des moins merdiques.
Alors ceci dit, tu peux. Enfin, des grosses administrations ou des pays continuaient de payer Microsoft pour avoir des mises à jour essentielles de ce type-là. Et la NHS, donc la Sécurité sociale britannique, est entre autres tombée parce que l'année dernière, le gouvernement en place a décidé de faire des économies et renouveler la. On changera d'OS l'année prochaine, ça sert à rien de payer cette année.
Ils ont renvoyé la concierge, quoi.
Oui, c'est
pour
ça.
Reprendre l'image
oui, tout
de
à fait.
Jérôme.
Tout à fait.
Voilà, exactement. Ça, ils ont renvoyé la concierge. Donc, le fabricant derrière, il a beau te renvoyer les vis qui manquaient sur le meuble ou le machin, si t'as personne pour les monter,
d'accord.
Personne les monte.
En fait, l'image que moi j'utiliserais bien pour rester dans les images et tout ça, c'est j'explique souvent l'hygiène numérique. C'est un peu comme quand on était petit, on nous a dit lave-toi les mains avant de passer à table. Et le petit enfant, on touche pas les barres du métro. Et le petit enfant fait, il lèche ses mains. Il est bien malade derrière. Et après, il dit. Ah, peut-être que mes parents, ils ont raison de m'imposer ces règles
non,
d'hygiène.
Non, je peux dire qu'ils continuent à sécher les mains. J'ai tout ce qu'il faut pour prouver.
Dans un monde idéal.
Moi, je vais en revenir. Oui, vas-y, Post Carbone.
Je veux dire, quand j'étais chez Thales, j'avais une vieille station Sun des années 70 avec FreeBSD dessus. Elle a marché, mais nickel.
Celle-là, il n'y a pas eu de problème.
Je l'ai jamais rebootée une seule fois. Et puis, elle a jamais eu les mains sales, celle-là.
Alors, si vous n'avez plus de problème informatique, vous tournez sur une vieille station Sun à Postille ou alors un Mac, puisque a priori, il y a moins de problèmes de ransomware. Alors, qu'est-ce qui se passe, Jérôme? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça arrive? Je veux dire, ça arrive dans ta boîte mail, mais c'est comme tous les virus habituels. Il faut activer une pièce jointe. Il n'y a pas moyen, quoi.
En fait, il y a eu deux problématiques. C'est que il suffit qu'une personne qui active la pièce jointe.
Oui, mais tu as bien dit ce que je viens de dire. C'est il faut activer une pièce jointe. Qui, en 2017, est encore assez con pour activer une pièce jointe dans un mail en anglais alors que tu habites en France ou à la rigueur, tu es en Angleterre, on peut comprendre, mais les mecs chez Renault, ils pouvaient arriver Your Bill ou Free Viagra ou un truc comme ça, ils vont pas cliquer sur le truc,
alors,
c'est pas possible.
Tu sais qu'il y a une autre technique, ils ont parlé récemment, il y a des gens qui laissent des clés USB dans les boîtes à lettres et tu as toujours un mec pour foutre la clé USB dans ton ordi et
Là, il faut être trop con.
Alors, pas tant que ça, parce qu'il y a des gens qui ont fait ça à un grand salon de la sécurité informatique où ils disaient voilà, on met des clés USB en disposition gratuite et tous les gens disent ah, c'est gratuit, je prends, je rentre chez moi, je claque. Et donc, quand la clé était branchée, ça envoyait un mail. Et ils ont compté, ils ont dit on a distribué une centaine de clés et on a eu une cinquantaine de mails. Est-ce que c'est noté, c'est gratuit? Les gens se disent je refilerai la clé au gamin.
Moi, c'est pour
autre,
ça qu'à mon bureau. C'est parfois vous avez des clients qui viennent avec les clés USB qui vous disent mes fichiers sont là-dessus pour tel ou tel
Et là t'as un Mac pour ouvrir la clé.
Ah non, moi c'est simple, la clé c'est porte.
Ah ouais, mais
moi c'est rigoureusement aucune clé USB dans mon système
pas
informatique, sinon c'est la
pas
mort.
Pas de clé alien.
Imaginons qu'on travaille dans un cybercafé.
Par exemple.
C'est pas possible.
Dans un cybercafé de deux jours.
Près de la gare. Déjà, expliquons un peu les choses. Ça n'existe plus à Paris, il n'y en a plus.
Non,
déjà. Deuxièmement, enfin, je vois pas qui peut aller bosser dans un cybercafé. Encore moins un cybercafé.
Bon, mais vas-y. Prenons ton postulat de départ.
C'est pas possible.
Imagine qu'on va dans un cybercafé, oui.
Oui. On va voir en fait le nombre de personnes qui branchent des clés USB, qui vont utiliser des documents personnels ou autres sur, comment dire, un poste sur lequel ils n'ont pas confiance. Comme ils n'ont aucune confiance.
Sauf que chez le Captain Web, les postes sont de confiance. Ouais. On est d'accord.
Non, mais alors,
parce qu'ils sont tellement vieux et lents qu'ils ne peuvent pas activer un virus.
Non, mais tu sais que pour le coup, en fait, il est
plutôt bien sécurisé par rapport à ces problématiques-là.
Ah, Siegfried, ça, fait gaffe.
Il fait vachement attention. Et même la manière dont...
Il a du Karpetsky, McAfee, non, il a même,
en fait, même quand ces ordinateurs sont redémarrés, en fait, ils sont carrément rebootés complètement, en dur. Alors là, pour le coup, il faut dire que le Captain Web, sur ces problématiques-là, c'est plutôt lui, en fait, qui nettoie toutes les clés USB qui passent que l'inverse.
Bah, il a l'habitude avec les toilettes.
C'est une autre histoire.
Bon, alors, revenons à cette histoire de la semaine dernière. Parce qu'en fait, le ransomware, tu t'en souviens, dans une série que nous aimons beaucoup, alors ton père, toi et moi.
Oui, The Good Wife.
Il y avait un épisode. Il y a eu plusieurs épisodes où
le cabinet d'avocats se fait hacker par un ransomware.
Et donc, ça bloque tous leurs dossiers. Bon, c'est pas nouveau, puisque ça date de 2-3 ans, tu vois, au moins de l'année dernière, minimum.
Tout à fait.
Voire 2 ans. Donc, là, ce qui est arrivé la semaine dernière, c'est pas une nouveauté technologique, pas du tout. Mais pourquoi ça a fait le buzz d'un seul coup? Parce que c'était dans l'air du temps? Ou alors parce qu'il s'est vraiment passé quelque chose d'étonnant la semaine dernière?
En fait, c'est que là, ils ont cumulé plusieurs technologies. C'est qu'il y a le ransomware habituel qu'on va recevoir par mail, etc. Et là, ils l'ont mis sous forme de verre. Donc, c'est qu'en fait, c'est le virus se répand tout seul.
Ah oui, d'accord.
Donc en fait, c'est que il se répand
au travers d'un réseau.
Oui, c'est se répand tout seul. C'est un peu comme je disais, faut que je retrouve le nom. Je vais vous retrouver ça dans mon notes.
Une fois, ça veut dire qu'une fois qu'il est arrivé, une fois que quelqu'un l'a introduit dans un réseau ou un système en ayant cliqué sur le mail.
Ouais, en fait, ça se répand dans le réseau et c'est là que ça va contaminer les autres machines. C'est ça en fait la nouveauté.
Oui, c'est ça.
C'est la combinaison d'un ransomware et d'un verre qui se propage sur un réseau interne.
Voilà. Lord Tromper a très bien résumé.
Vous avez vu ça?
Ouais, c'est ça. C'est ça la force de Lord Tromper. Donc c'est extrêmement dangereux. Est-ce qu'il y a moyen de démonter ce virus, c'est-à-dire de casser la clé, ou alors est-ce que l'encryptage est trop puissant pour qu'on ait une seule chance de pouvoir casser ce logiciel malfaisant?
Alors là, en fait, c'est ce que il y a des chercheurs en sécurité qui sont penchés sur le sujet. Alors ils ont vu plusieurs choses. Ils ont vu que déjà, même si, on payait, on n'avait pas de, aucune garantie. Parce que ça sous-entend, en fait, ce qu'ils ont vu, c'est que ça cryptait pour tout le monde pareil. Ça sous-entend que s'il y a quelqu'un, et donc il faudrait un numéro de série presque pour dire voilà, ce numéro de série là, les gens ont payé, donc on va pouvoir décrypter leurs données. Par contre, les autres, ils n'ont pas payé et on décrypte pas. Sauf que comme là, ça crypte pour pareil pour tout le monde, s'il y en a un qui paye, ça pourrait
décrypter
tout le monde.
Ah, du coup, c'est la même clé pour tout le monde.
Oui, là, en fait, c'est la même clé pour tout le monde. Donc du coup, même si on paye, ça ne sert à rien. Donc déjà, il y a un souci.
Vous croyez que Carlos Ghosn, il a mis sa carte bancaire?
Est-ce qu'on sait si, soit Renault, soit les hôpitaux britanniques, est-ce que, un, ils ont raqué, et est-ce que, deux, à ce jour, sans avoir raqué ou en ayant raqué, est-ce que leurs fichiers sont décryptés? Est-ce qu'ils ont récupéré la maîtrise de leur système?
Non, alors, c'est la seule solution, c'est d'avoir des backups. C'est donc avoir une bonne d'avoir des bonnes procédures de sauvegarde.
Donc qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ils ont perdu les fichiers qui étaient sur leur disque dur.
Ouais, c'est ça. Ils ont perdu les fichiers qui sont sur leur disque dur. Ils peuvent faire, je fais format ces deux points et je réinstalle tout.
Et puis il faut faire attention à une chose aussi. Il ne faut pas que les systèmes de sauvegarde puissent être contaminés eux-mêmes par le verre.
Tout à fait.
Parce que sinon tout se crypte, y compris tes sauvegardes.
C'est un effet domino.
Donc il faut que tes sauvegardes soient sous un autre OS ou sur des systèmes séparés qui se coupent du réseau.
Oui, ça donne furieusement envie de plus utiliser un truc qui commence par W, mais qui finit par S.
Je crois que souvent c'est des serveurs.
Tu peux le dire, ça donne plus envie d'utiliser Windows.
Oui.
J'ai des solutions pour ça.
Tout à fait.
Et anti-stress, on a aussi.
Je peux dire qu'elles sont pas dans le budget des hôpitaux britanniques. Hein.
Alors dans les petits trucs marrants, donc il y a des personnes qui ont étudié un petit peu le code, comment c'était fait. Ils se sont aperçus que donc souvent l'étude des virus se fait en fait dans un environnement, dans des machines virtuelles, c'est dans des environnements spéciaux. Et donc,
c'est comme les vrais virus, on s'isole bien.
Ouais, si on isole bien, en fait, ils font ça dans des chambres blanches, un peu
sur des machines virtuelles, VMware.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, c'est des faux PC. Ils font croire au virus qu'il est sur un vrai PC. Sauf que pour qu'il puisse, et généralement, le virus va communiquer sur Internet et tout ça. Et donc, pour que le virus se croie sur un vrai PC, qu'il ait accès à tout Internet, ils autorisent, en fait, ils créent un faux Internet, ils disent au virus, t'as accès à tout Internet. Sauf que là, le virus, c'est pas con. Moi, j'ai demandé à me connecter sur un site qui n'existe pas. Donc, du coup, si je suis dans une machine, en fait, sur un faux PC.
Qui dit toujours oui.
Et qui me dit toujours oui à tout sur ce que je veux aller sur Internet.
Il sait que c'est bidon.
C'est comme dans Passé Virtuel, il sait qu'il n'est pas dans
la réalité. Ou c'est comme le firmware Volkswagen qui sait qu'il est en train d'être testé.
Voilà,
à l'usine,
c'est exactement ça. C'est le même principe.
Anti-pollution.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est que. Et donc, il y a un chercheur qui s'est aperçu que. Il a regardé un petit peu à quoi va se connecter le virus en question. Et il a vu en fait dans le code qu'il se voulait se connecter à un site qui n'existait pas. Il a dit bon, ok. Quand dans la machine virtuelle en fait, il voulait se connecter au site qui n'existait pas, et il voit que le site répond, il se dit ah, on me fait répondre, on se fout de ma gueule, donc je fais rien. Et donc on pouvait pas étudier le comportement du virus, parce qu'il se lance pas. Et donc le chercheur s'est dit, bah si je crée sur le vrai internet le ce site là. Donc du coup ça a arrêté l'épidémie, parce qu'en fait les virus ont commencé ont commencé à regarder, à se dire est-ce que je suis dans un
ils ont tous cru qu'ils étaient dans un faux environnement.
Voilà, en fait les virus qui avaient accès vraiment à internet ont regardé et ont dit ah le site répond. Donc c'est que je suis pas sur un vrai ordinateur donc, et je m'arrête.
Donc je m'arrête.
Donc il a créé une sorte de vaccin. Quoi.
Voilà, il crée une sorte de vaccin. Voilà.
Il a utilisé l'anti-vaccin du virus pour le vacciner.
Voilà. Et là où ça devient encore plus compliqué, c'est
Je suis dans la réalité virtuelle, donc je peux sauter par la fenêtre.
Et il y a eu une version 2 où là les gens se sont dit ah mais on a étudié le code, bah du coup on va le modifier légèrement pour enlever du virus d'origine le fait qu'il aille regarder si ce site existe ou pas. Et du coup, on a un nouveau virus, en fait, d'une version 2 du virus souche qui se propage.
Ah, et donc ça, c'est récent.
Voilà, c'est récent. C'est qu'en fait, il y a des gens qui se sont dit, ah, bah si j'enlève ça dans le code, regarde si le site existe, et si oui, tu te lances, et sinon, tu te lances pas. Bah, ils l'ont enlevé du virus, donc il y a une version 2 qui est sortie.
Alors, est-ce qu'ils sont capables de repérer les bâtards qui ont lancé ce truc-là, par exemple, en traçant le pognon?
C'est pas si complet. Alors, les bitcoins, en fait, il y a une certaine traçabilité, mais le but, c'est de suffisamment, en fait, passer dans... C'est vraiment comme de passer la monnaie dans la machine à laver informatique. C'est qu'on va faire des micro-transactions et un certain nombre de transactions pour, justement, perdre la trace. Je décompose mes bitcoins, après, je le regroupe en une dizaine de bitcoins, après, je le redécompose et éventuellement, je passe par une plateforme obscure qui me le convertit en dollars pour le récupérer une banque au Panama ou autre pour récupérer l'argent. Donc c'est pour ça, en fait, il y a une traçabilité, mais c'est tellement compliqué de suivre à la trace. Et derrière, une fois qu'on retrouve le compte au Panama, le compte a été fermé, l'argent a été déjà retiré, qu'en fait on peut considérer que c'est intraçable. Mais on a quand même l'historique de toutes les transactions.
Jérôme, c'est un passionné, excuse-moi de te sortir une vieille anecdote de vieux. Tu me rappelles un assistant de TP dans mon école d'ingénieur qui collectionnait les virus sur des disquettes 5 pouces 1 quart.
Oh, c'est sympa.
Et
ça.
Il se ramenait le matin en disant ah, si vous êtes pas sage, je vous mets la disquette 5 pouces 1 quart dans votre lecteur.
Ouais, mais vous étiez sur quel OS à l'époque?
Était sur des IBM, c'était des trucs.
Les AS400
Est-ce qu'il avait le virus Corse?
Ah, je sais pas.
Le virus Corse?
Le virus Corse, c'est un virus qui se lance qui dit bombes. Vous êtes affecté par le virus Corse. Veuillez formater votre ordinateur.
Sympa, sympa. Aujourd'hui, on a quand même le sentiment que les protections informatiques. Tels que les antivirus ou les corrections de failles de sécurité, ce genre de choses, c'est pas suffisant pour pallier à la menace d'une attaque. Et moi, je constate, parce que j'ai un serveur, personnellement, un serveur qui est parfois malmené par le Capitaine Web, mais maintenant, il a changé, il en a un nouveau.
C'est celui qui a brûlé, là.
C'est celui qui a brûlé, depuis, il va mieux.
J'ai vu ça sur
Twitter. Alors, je reçois, par exemple, je sais même pas comment arrêter ce truc-là, mais je reçois un truc qui s'appelle Fail to Ban. Je sais pas ce que tu vois ce que c'est.
Oui. Alors, au contraire, Fail to Ban, faut surtout pas l'arrêter.
Non, je ne l'arrête pas. C'est une très bonne chose. Je voudrais arrêter les notifications. Bon, ça va directement dans mes spams. Mais le Fail to Ban, c'est un truc qui bloque des attaques, en fait, sur mon serveur.
Oui, tout à fait.
Et il se trouve... Alors donc, quand je regarde un rapport de Fail to Ban, j'ai l'IP machin, a été banni parce qu'il a tenté pendant 5 fois d'accéder à mon serveur. Ça vient de tel endroit, etc. etc. J'ai toutes les infos. J'en reçois des centaines par jour. Ça veut dire
que... C'est délirant. Moi, je vois... Je te coupe, pardonne-moi, mais ça va dans le sens de ce que tu dis. De temps en temps, j'administre un peu le site du Captain Web, puisque on le fait avec Siegfried, Captain Web. Et je vois notamment le nombre de mails qui arrivent à la seconde et qui, heureusement, les filtres, c'est WordPress qui tourne derrière.
Ah oui, oui.
Et qui tourne plutôt bien, d'ailleurs. C'est délirant le nombre de mails à la seconde qui arrivent sur notre... Et notre serveur, et c'est un petit serveur, c'est un petit site. Enfin, je veux dire, par rapport à des gros trucs institutionnels, c'est des dizaines à la seconde.
Donc, est-ce qu'il faut faire attention à ça? Est-ce que quand tu as un ordinateur personnel, tu vois, ne serait-ce que chez toi, branché à un réseau, ou même, moi j'ai des NAS avec des backups, des sauvegardes de mes boulots, de plein de trucs, et j'imagine qu'ils sont en permanence assiégés par des tentatives d'intrusion. Est-ce qu'il faut y faire attention ou est-ce que bah, c'est pas plus grave qu'autre chose quoi ?
Alors en fait, la problématique de toutes les attaques à l'heure actuelle, c'est simple, c'est lié en fait à tout ce qui est, comment dire, ce qu'on appelle les PC zombies. C'est pas nouveau les PC zombies, sauf que maintenant là, on a les caméras zombies, on a tous les objets connectés zombies.
L'internet des objets, voilà, les objets connectés.
C'est l'internet des objets.
Absolument.
C'est que ça coûte. Maintenant, ma lampe peut être à l'origine d'une attaque.
Ouais, mais il y a eu les frigos, il y a eu l'attaque des frigos.
Alors
juste pour expliquer, aux gens qui connaissent pas. En fait, la grande nouveauté de ces objets connectés, c'est que tu peux faire à distance des modifications de leur firmware, parce que tu sais qu'ils ont des mises à jour automatiques. Et en fait, les mecs s'amusent à faire une fausse mise à jour de firmware, et tout à coup, qu'est-ce qu'il fait ce firmware ? Comme l'objet est connecté avec une adresse IP, il peut faire du déni de service, en fait. Il va constamment pinguer, par exemple, tu as décidé de faire très mal au site du FBI, et donc ça, tout d'un coup, tu as un million.
T'envoies 20 000 frigos.
Tu as un million de caméras ou de frigos connectés qui pingent le serveur du FBI.
Et là, le serveur,
et donc
il va lâcher.
Il est down. Et ça, ça a été rigolo comme tout. Enfin,
bon, ça permet pas d'accéder au serveur, mais par contre, ça le fout en panne.
Voilà, oui, ça l'anesthésie totalement.
Oui, c'est ça en fait. C'est que maintenant, on a de plus en plus d'objets qui sont connectés, donc sur lesquels on va pouvoir avoir accès
surtout,
à distance.
Ils ont une sécurité de merde parce qu'il faut investir de l'argent pour avoir la bonne sécurité.
C'est ça. Et en fait, c'est plus simple ça coûte cher la sécurité. Et donc, du coup, bah, on se dit, oh bon, bah, on fait.
Et puis, ça n'est qu'une lampe.
Oui,
sauf que quand
tu n'as pas répondu à ma question,
je vais y
répondre. Jérôme.
Oui, tout à fait. Donc en fait,
je l'ai coupé, désolé.
Oui. Et donc en fait, on se retrouve avec un certain nombre d'objets qui ont des mots de passe par défaut, qui sont admin ou autre. Un, deux, trois. Et tous ces objets en fait vont se faire infecter par des virus et deviennent en fait des PC ou des machines zombies. Et donc après, il y a tout un système dans de marché noir en fait dans les systèmes mafieux qui vont vendre du temps d'accès à ces machines là. Et donc, pour trouver ces fameux PC zombies, en fait, il y a des systèmes de recherche automatique qui vont regarder un petit peu toutes les adresses d'Internet et toquer en fait à toutes les portes et voir s'il y a une porte qui est ouverte. C'est un peu comme s'il y avait le cambrioleur qui se baladait chez vous dans la rue, qui rentre dans un immeuble et qui essaye de toquer à toutes les portes et voir s'il y a une porte sur laquelle il rentre. Et s'il rentre, il vient squatter. Et donc, la seule solution, c'est de fermer sérieusement sa porte. Et de fermer sérieusement sa porte, c'est quoi ? C'est faire ses mises à jour de sécurité. C'est, comme j'expliquais tout à l'heure, faire son ralement de façade. C'est sortir ses poubelles. C'est, comme si sinon on a des rats.
Ou alors vivre dans un monde...
Oui, mais alors attends, là tu parles par parabole, mais d'abord tu n'as pas encore répondu à ma question. La question c'est, est-ce que c'est grave d'être en permanence sous le feu de ces PC zombies, ou est-ce que finalement... Voilà,
alors
quoi.
Ça n'est pas grave si on applique des bonnes règles d'hygiène numérique.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Et c'est là où t'en viens à sortir les poubelles.
Ouais,
donc c'est alors c'est quoi ? C'est
faire ses mises à jour.
Bon, première chose, les mises à jour des OS et principalement Windows puisque c'est le plus visé. Pourquoi c'est le plus visé ? Parce que c'est le plus répandu.
Tout à fait. Oui. Mais c'est valable aussi pour Android parce que à l'heure actuelle Android est un OS très répandu.
Donc 2 milliards de devices Android a annoncé Google. On a passé les 2 milliards de devices Android dans le monde.
Et pour le coup, les téléphones sont rarement mis à jour.
Il faut éviter les logiciels piratés. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un logiciel piraté, c'est un logiciel qu'on n'a pas payé. Et le côté qu'on n'a pas payé, il y a des protections, etc., c'est que ces protections ont sauté. Et pour faire sauter ces protections, généralement, ça peut être, on met un crack. Mais ce qui peut être intéressant, si la personne qui met le crack n'est pas forcément... Elle peut rajouter une petite saloperie pour se dire, tiens, la personne va installer le jeu ou chez soi. Et donc, du coup, j'en profitais pour zombifier son PC. Donc, il va falloir éviter...
Oui, ça fait un PC de plus dans l'armée de zombies.
Ça fait un PC de plus dans l'armée de zombies. Et puis, j'utilise un petit peu ta connexion Internet quand il n'est pas là. Je vais pouvoir faire des attaques avec.
Est-ce que les consoles de jeux qui sont nettement plus sécurisées, comme la PlayStation, pour éviter justement le hacking des machines et continuer à pouvoir vendre du jeu à 70€, est-ce que ces machines-là sont aussi victimes des hackers et servent de machines zombies ? Parce que pour le coup... Nos PS4, nos PS3 ou nos machines récentes sont en permanence connectées à l'Internet.
Potentiellement, oui. Si ça reste du système informatique, en fait, une console, à l'heure actuelle, c'est un PC. C'est juste une interface graphique différente, mais c'est conçu comme un PC. Et on pourrait très bien imaginer que quelqu'un s'intéresse à...
Sauf qu'elles sont mises à jour par les constructeurs de manière quasi automatique.
Ouais, oui, ça c'est fort. Oui. Ça c'est vrai que... C'est fort et en même temps, c'est chiant parce que... Voilà ça, la PS4, tu l'allumes, t'es sûr que t'as une nouvelle mise à jour, si tu vas pas l'allumer depuis 3 jours.
Steam aussi, ça peut...
Donc là,
chaque fois que je l'allume, je viens une fois par semaine dans ma maison de campagne, j'allume Steam.
Steam et c'est parti, 4 gigas de...
et tu laissais la fin du week-end et t'as toujours pas fini tes mises à jour.
Ça m'a pris toute ma bande passante à 3G.
La rentabilité en fait est peut-être pas intéressante parce que ce qu'il faut voir c'est que pour trouver des failles exploitables, c'est comme on a dit, c'est par exemple c'est la NSA, c'est des gouvernements qui peuvent être chinois, russes ou français ou autres, et donc c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement, c'est des ingénieurs très pointus qui vont chercher. Si c'est pour infecter 3 PlayStation qui au bout d'une semaine sont mises à jour, ça vaut pas le coup.
Surtout que maintenant qu'on a effectivement tout le marché de l'IoT qui se développe, et donc qu'on a une, comme tu dis, des engins qui sont absolument pas protégés, qui représentent finalement une puissance de calcul qui est en train de monter.
J'ai un truc à raconter sur l'internet des objets parce que j'ai toujours un partenaire qui s'appelle NXP qui a été racheté par Qualcomm. Et ils se frottent les mains parce que justement, ils vont produire à bas coût des tas de petits chipsets silicium. Notamment pour la maison connectée, pour tous ces objets du quotidien qui commencent à être sur Internet. Et ils cherchent à trouver un compromis entre le prix de ce silicium et le niveau de sécurité que ça va fournir. Et c'est évidemment du pain béni pour eux. Ça et la voiture autoguidée, c'est les deux trucs d'avenir de ces objets.
Oui. Alors, donc, faut qu'on mette à jour son OS et ses logiciels.
Mettre à jour son OS, ne pas installer de logiciels piratés, parce que là, on risque. Quoi d'autre dans la bonne hygiène numérique.
Acheter un boulier.
Non, dans la bonne hygiène numérique aussi, il y a la problématique des mots de passe. On n'aura pas son PC qui va devenir un PC zombie, mais dans le cas de l'hygiène numérique plus générale, idéalement, c'est un mot de passe différent par site internet. Et là, on rentre dans des considérations où c'est compliqué, c'est l'enfer. Ouais. Et donc, du coup, on va avoir un coffre-fort de mots de passe. Où là, en fait,
le logiciel OnePassword.
Ouais, c'est ça, comme OnePassword où il y a des KeePass, LastPass, il y a différents types de logiciels. L'idée, c'est en fait,
ça marche bien, ça.
Oui, ça marche.
Comment ça fonctionne d'ailleurs?
En fait, c'est que ça crée un coffre-fort numérique. Donc, en fait, ça va créer un espace de stockage chiffré.
Mais c'est que c'est pas dangereux parce que c'est un bocal qui finalement, s'il se fait pirater, tu te fais choper tous tes mots de passe.
Oui, c'est vrai. Bon. Donc après, c'est un compromis. C'est un peu, faut trouver en fait un équilibre entre jusqu'où je suis prêt à aller pour me protéger et jusqu'où après je suis prêt à aller en fait pour avoir un petit peu plus de sécurité. Et donc, ce que j'explique souvent, c'est est-ce que c'est intéressant de vivre dans un bunker numérique? Donc comme on vit dans un bunker dans la vraie vie, c'est contraignant. J'ai une porte blindée à ouvrir, là on va rentrer tard, je vais avoir 3 serrures à ouvrir, j'aurai qu'une envie, c'est d'aller dormir, c'est une contrainte. Si je suis pressé pour aller prendre le TGV, j'ai mes 3 serrures à ouvrir, si je les ferme pas, je perds tout l'intérêt de vivre là-dedans. Mais si je laisse la fenêtre ouverte, le voleur il passe par la fenêtre. Et c'est peut-être plus intéressant d'avoir tout simplement une porte en bois et un vrai coffre-fort. Où là, je vais mettre mon passeport, par exemple.
Sauf si le voleur il passe par la porte
il
en bois.
Il aime bien les paraboles imagées, Jérôme.
Il emballe le coffre-fort. Et il part avec le coffre-fort.
Mais si le coffre-fort est scellé dans le mur, ce qu'il fait, c'est qu'il prend, par exemple, mon baladeur MP3.
Il prend la PlayStation.
Si tu te fais chier à chaque fois, foutre ton baladeur dans ton coffre.
Non, mais il faut savoir, est-ce que je préfère qu'on me casse la porte en bois et je déclare à la mon assurance qu'on m'a volé ma PlayStation, puis bon, tant pis, c'est un coût financier, ou est-ce que je veux avoir une porte blindée et tous les jours m'embêter à fermer et ouvrir mes 3 serrures. Donc c'est à chacun de définir
ses options sur sa vie numérique.
Voilà. Et donc ça va être mon mot de passe le plus important, en fait, ça va être par exemple mon compte de mail, parce que c'est le compte du forum où je vais de temps en temps, je mets un mot de passe bidon, puis quand je l'oublie, moi j'ai le réflexe de je clique sur j'ai oublié mon mot de passe et je ressaisis un nouveau temps. Voilà.
C'est relativement facile.
Oui, c'est relativement facile. Par contre, mon mail, où là, il y a toute ma vie numérique, je vais mettre un mot de passe sécurisé. Et un mot de passe sécurisé, c'est pas forcément un mot de passe compliqué.
Alors, vas-y, donne-nous des informations sur la... Ouais. Sur le,
j'avais expliqué chez l'ami Bobozor que plus c'est long, plus c'est bon. En fait, un mot de passe compliqué, c'est un mot de passe long. C'est une phrase de passe. Ça va être, en fait, on va cumuler plusieurs mots qui n'ont rien à voir entre eux.
Un poème de Baudelaire.
Ouais. Lorsque ton père a un énorme sexe, c'est un bon mot de passe.
Sauf que tu passes une heure à le taper, qu'à chaque fois, tu te plantes sur une
façon Radio Londres.
Bah, en fait, si le site est bien fait, alors ton père, ton corps de bête, c'est un mot de passe qui est long.
Ah oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu celui-là.
Je vais essayer sur Gmail, je suis sûr qu'il a mis ça.
Moi, pas du tout. Voilà. Moi, c'est assez facile, j'ai un mot de passe, en fait, je peux le dire. Le mot de passe lui-même. Mais en fait, j'utilise un mot de passe avec la racine qui est toujours la même et une variation selon une certaine
selon
idée,
le contexte.
Selon le contexte qui me permet de retrouver facilement le mot de passe final.
En fait, idéalement, il faut avoir un mot de passe qui est long. 16 caractères, c'est plutôt bien.
Ouf, oh, la vache, 16 c'est long, caractères,
ouais, mais
c'est énorme.
Lors ton père, ton corps de bête.
Ouais, mais ça fait chier de taper 16 lettres, quoi.
Oui, mais ce qu'il faut savoir.
Je vais le taper, tiens, pour voir.
Ouais, pour voir, va côté. Ouais.
Vas-y, il y a un tape en Google. Ouais.
Mais tape le vite sans trop réfléchir, tu vas voir, tu te trompes à chaque fois.
Corps de bête.
C'est ORPS.
Ouais.
Et t'as mis un accent circonflexe sur
moi. Non, j'ai pas
mis. Après, je donnerai une solution.
Ton corps de bête, c'est long quand même.
Ouais, une petite solution plus simple. Parce qu'en fait, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que la personne qui en veut à votre compte, elle va pas s'embêter. Elle va tester toutes les combinaisons possibles. Elle va faire A, 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 B, A, C. 8 caractères, en quelques heures, on trouve. Au bout d'une moulinette, 8 caractères, s'il n'y en a que des lettres.
C'est déjà. Oui, des lettres et des chiffres.
Mais des chiffres et des lettres, c'est quelques heures. 8 caractères. Par contre, si on passe à 10. Bah alors,
c'est
exponentiel. Si on passe à 16, là, c'est plus, on sera mort avant que.
Posti, lui, il a un mot de passe de 256 caractères.
Non, moi, je dois avoir 11 ou 12.
Ouais. Bah, en tout cas, c'est intéressant parce que là, pour le coup, on se rend pas compte. Parce que moi, je pensais que 8 caractères, c'était déjà pas mal.
Non, c'est à l'heure actuelle, les spéciales l'ANSSI, par exemple, qui fait beaucoup d'hygiène numérique. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité de systèmes d'information et d'informatique. Donc, c'est une agence. Explique que oui, c'est 16 caractères, c'est bien. Et plus simple, la double authentification. L'idée, c'est quoi?
Avec le
ça, qu'est-ce qui me gonfle avec ça
Oui, mais c'est très bien, parce que si, même si on a un mot de passe de 8 caractères qu'on a trouvé ou autre, on reçoit un SMS, et ça nous demande un code à usage unique.
Ouais, ça c'est pas mal. Ouais.
Donc, mais t'as des mecs maintenant qui hack aussi le fait de recevoir le SMS
oui,
à ta place.
Oui, mais après, là c'est le jeu de chat à la souris, c'est savoir un petit peu, donc là on rentre dans des considérations un petit peu plus complexes.
Non mais attends, non mais même, moi je vois ma banque.
Après ils vont te demander de mâcher un chewing-gum pour être sûr que...
Je dois rentrer un mot de passe. Je rentre aussi le truc d'une question secrète. Je rentre un mot de passe ensuite sur mon téléphone qui n'est pas le même, et le téléphone me donne un numéro que je dois rentrer ensuite dans le site web.
Moi,
je mets un quart d'heure à rentrer sur ce
site. Moi, j'ai une carte à puce
où je ne peux pas faire de virement.
Moi, j'ai une...
je ne peux pas faire de virement.
Pour ma banque professionnelle, moi, j'ai une carte à puce dans laquelle j'ai un appareil. Quand je branche la carte, je rentre mon identifiant et un code qui se génère. Et là, je peux accéder. Et pareil, pour tout ce qui est virement, opération bancaire, j'ai un double code à signature. Et ça utilise une carte à puce et un appareil. Donc c'est physique, je veux dire, le mot de passe, je le tiens entre mes mains réellement.
Et t'as un autre système, en fait, où tu utilises un réseau qui est en VPN. Il faut des boîtiers matériels spécifiques installés dans ton entreprise, parce qu'il faut que ça passe par ce boîtier pour que ça fonctionne. Derrière, t'as une clé cryptée qui elle-même a besoin d'un mot de passe.
Et avec la
connexion à un tiers certificateur.
C'est
comme le bunker, tu peux rajouter des portes. Des mètres de béton autant que tu veux.
Non mais ça c'est intéressant ce que vous dites les amis, parce que justement ça me donne envie de penser à l'avenir. D'après toi Jérôme, ça va être quoi l'avenir de la protection informatique? Est-ce qu'on va avoir, parce que là tu vois j'ai la chance d'avoir la dernière génération de Mac Pro, j'ouvre mon Mac Pro, moi j'ai un Touch ID avec mon doigt pour pouvoir ouvrir, déverrouiller mon Mac.
On va te le couper ton doigt.
Si on me coupe mon doigt, on me déverrouille le Mac, mais en attendant si t'as pas mon empreinte digitale ou le mot de passe évidemment, parce qu'en plus il y a un mot de passe,
faudrait que tu lèches une partie de l'écran.
Alors, mais c'est quoi l'avenir? T'as vu le dernier Samsung, le S8, il utilise la reconnaissance faciale. Il paraît que c'est pas très efficace parce que finalement il se trompe relativement beaucoup.
Alors il y a des
surtout
gens
si tu mets une photo.
Il y a des gens qui pensent à par exemple la pulsation cardiaque. Parce que c'est entre deux individus, c'est totalement différent.
Si en fait, si t'es en plein AVC,
imagine, passe d'un traitement anti-tension à un autre, et puis voilà, c'est foutu.
C'est plus la même. Mmh. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on va aller par. Là, tu as donné un exemple très spécifique, mais est-ce que d'après toi, l'avenir est justement à plus de biométrie ou plus de mots de passe, ou plus de systèmes, justement, comme parlait leur ton père, de boîtiers qui s'interconnectent entre le serveur et ta machine, et donc. Que si t'as pas ce boîtier entre les deux, et ben tu peux toujours courir pour essayer d'accéder, t'accéderas pas. Voilà, on avance vers quel type de protection?
Le problème, c'est que il n'y a pas vraiment de réponse absolue. Parce que pour vous faire peur, après il y a tout ce qui est la problématique des ordinateurs quantiques. On dit que là il y a des gens, des chercheurs qui disent le mot de passe c'est mort. Parce que avec un ordinateur quantique, on peut casser très facilement des mots de passe très complexes. C'est ce qu'on mettait plusieurs années avant, là c'est quelques secondes.
Si on utilise un ordinateur quantique pour créer lui-même les systèmes de protection.
Oui, donc après ça veut dire qu'il faut que l'ordinateur quantique soit accessible au commun des mortels. Après, comme disait leur ton père juste dit tout à l'heure, il y a le côté l'envoi de code par SMS, on peut imaginer des systèmes d'usurpation, en fait, en se faisant passer pour une borne. Donc, en fait, ça rejoint le, c'est pour le commun des mortels, on va dire, le double authentification, ça marche très bien. Si je travaille dans un, comme pour un métier, un système critique, là, en fait, si on veut vraiment.
On le met hors Internet.
Faut le mettre hors Internet, c'est vrai. Et après, il y a toujours la problématique, le facteur, en fait, au départ, c'est vraiment le facteur humain. Là, j'ai eu un ami qui a tweeté il n'y a pas longtemps, il disait ah bah je suis dans le TGV.
Voilà, oui, je l'ai vu aussi celui-là.
Ouais. J'y pensais. C'est ouais. C'est, il était dans le TGV et puis donc il était à côté de quelqu'un qui travaillait pour dans le domaine du nucléaire.
Voilà, un grand acteur français du nucléaire.
Ouais. Voilà, voilà. Je te laisse raconter.
Areva, non.
Et le gars par
qui finit par
ça ou EDF.
Et qui est au bord de la faillite.
Et donc il avait pris une photo de l'ordinateur de son voisin. Son voisin était parti au chiottes dans le machin en ayant laissé sa session VPN branchée avec la carte d'identification.
Donc il avait tout le système d'appareillage qui était bien branché, donc le téléphone qui donne le code qui va bien, la petite clé USB en fait qui permet de faire VPN qu'on branche en USB et que si on n'a pas l'ordinateur se déverrouille pas. Sauf que il a une petite envie pressante, il part, il laisse tout allumé et donc la personne qui est à côté peut très bien se connecter, brancher une clé USB, ou regarder ou prendre des photos avec le smartphone. Donc c'est
on va laisser peser.
Ouais. Et donc le problématique, on aura beau sécuriser au maximum, ça va être l'humain le facteur le plus sensible.
Ah bah c'est là. Il y a un dicton hein, souvent dans le domaine informatique parce que moi aussi je travaille dans l'informatique. En général, souvent quand tu cherches où est le problème dans ton logiciel,
entre la chaise et l'écran.
Voilà.
Repensez à la superbe série anglaise qui s'appelle IT Crowd, que je vous recommande. Et là, vous allez comprendre ce que c'est qu'un problème humain.
Et puis parfois aussi, t'as le défaut de conception, parce que même si t'as le mot de passe introuvable, parfois tu peux quand même niquer le truc. Moi, je me rappelle, il y avait une bonne vieille technique sous Windows XP, et parce que j'avais eu plusieurs fois des amis qui m'avaient dit ah j'ai paumé le mot de passe, j'arrive plus à le récupérer. Et t'avais une bonne vieille technique, tu bootais sur un CD extérieur.
Off crack.
Tu utilisais les logiciels, enfin c'était un OS en fait simplifié bootable sur CD.
Ça fait.
Et t'avais sur ce logiciel bootable, t'avais tout un tas d'outils de maintenance, et notamment un outil de maintenance qui permettait d'éditer la base d'enregistre. Et en fait, dans la base d'enregistre, t'allais pas chercher du tout le mot de passe ou d'essayer de le comprendre, tu l'effaçais. Et donc tu enlevais ton CD, tu redémarrais l'ordi, le PC rebootait et comme il y avait plus de mot de passe dans la base d'enregistre, et il t'ouvrait la porte.
Bah à l'heure actuelle, il y a des dictionnaires de mots de passe, on appelle ça des Rainbow Table, où en fait on met ce système live qui va tester toutes les combinaisons possibles. Et avec les cartes graphiques à l'heure actuelle, en fait, on peut paralléliser les tests. Et donc, avec une GeForce 1070, en quelques heures, on peut trouver, tester.
Il faut que le système accepte aussi que tu testes un certain nombre de tentatives. Voilà. Parce que le truc te bloque à 3 tentatives...
Tout à fait. Et donc, une solution plus simple, ça peut être, en fait, de décaler...
Je me permets 2 secondes
ouais, bien sûr.
De vous mettre le générique d'IT Crowd. C'est une sublime série. Si vous êtes geek et que vous ne connaissez pas cette série.
Mais ça continue.
Non, il y a eu 4 saisons. Il y a eu 4 saisons, c'est déjà très très bien.
Est-ce que je peux.
Et c'est une série très drôle et c'est tout l'humour anglais concentré dans une équipe de maintenance informatique.
Au sous-sol.
Ouais.
Gemma n'est pas fini son propos.
Ouais, vas-y, Gemma.
Juste pour finir, donc ce que disait alors ton père à juste titre, c'est le côté en fait bloquer les tentatives, c'est une très bonne pratique. Pourquoi ? C'est qu'en fait, ça va décourager le pirate ou la personne qui insiste. En fait, c'est que au début, on va bloquer pendant une minute. Après, on va bloquer pendant 3 minutes. Et donc, en fait, même si on a un mot de passe simple, si le système informatique qui est derrière est bien pensé, ça va bloquer. Et nous, en tant qu'utilisateur, si on arrive et ça nous dit « Ah, vous êtes bloqué pendant 25 jours », on se dit « Ah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaie de pirater mon compte ou autre », et on va donner d'autres preuves.
Problème, c'est que la protection peut se retourner, parce que si le mec est bloqué pendant 25 jours pour réessayer...
C'est le cas sur Mac, je crois que... Non, sur l'iPhone, quand tu fais trop de tentatives de combinaison, si tu as une combinaison à chiffres pour accéder à ton iPhone, il te bloque pendant un certain temps, tu peux plus y accéder. Mais c'est un temps limité. Vas-y, Posti.
Je voulais dire un truc un peu positif, pour une fois, sur l'état français. J'ai été agréablement surpris dans ma start-up iPhone. Une semaine, je me prends un coup de fil de la DGSE, vous savez, c'est la direction de la sécurité extérieure. Et ils me disent, écoutez, on a identifié vous faites partie de start-up intéressante, prometteuse, c'est un peu l'avenir du numérique français, etc.
Ça va, ils n'avaient pas d'accent russe ou...
Non.
Et là, tu leur as répondu, désolé, j'ai vendu.
Ils sont venus très gentiment à 3 reprises,
pour nous expliquer un peu les différents pièges, surtout quand on part à l'étranger, parce qu'on est très vulnérable, notamment, moi j'ai fait beaucoup la promotion sur des salons asiatiques, des salons américains, et je vais vous raconter deux ou trois choses marrantes. Si
bonjour,
vous,
si Postcarbone, ça... tu es très mignon, je peux en savoir plus sur ta startup.
Justement, prenons le cas de l'Asie, le piège fatal.
C'est la femme.
Classique, c'est l'escorte, absolument.
Et donc c'était
rigolo parce que, une petite anecdote sur les trois personnes, il y avait une femme informaticienne qui nous a fait le brief de l'escorte en Asie. Et en gros, c'est, je vous la fais courte, mais après avoir fait donc une bonne relation sexuelle, on prend sa douche et c'est là où en fait la nana, elle est payée par le gouvernement asiatique local. Et là, elle va essayer tous les trucs possibles
et
imaginables.
Donc, ce qu'il faut faire, n'oubliez pas, chers auditeurs, si vous avez cette chance d'être en Asie avec une belle jeune femme et que vous prenez votre douche, n'oubliez pas de prendre un sac plastique et l'ordinateur avec vous sous la douche.
Non, mais attends, tu rigoles, LTP, mais c'est ça qu'ils disent. Vous fermez le laptop et vous le foutez dans la salle de bain avec vous et vous fermez à clé. Ouais. Alors ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, il est rigolo, c'est sur les salons, on offre à tour de bras des clés USB, notamment sur les salons asiatiques.
On en parlait tout à l'heure.
Évidemment, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Il y en a en bois, il y en a en bambou. Enfin,
les clés USB ou les hôtesses qui les offrent.
C'est du vécu et on est évidemment hyper tenté de brancher ça sur son laptop. Et en fait, dedans, il y a un truc qui upload dès qu'il peut, dès qu'il est connecté, upload. Et alors, le truc qui fait quand même, tu vas voir LTP, je pense que tu dois être au courant de ça. Ça fait le plus finalement flipper, c'est aux États-Unis. Depuis le Patriot Act, il y a un truc qui se passe quand tu voyages avec ton laptop. Ils ont droit de vie et de mort sur tes datas au moment où tu passes notamment les contrôles.
Je crois que si tu cryptes tes datas, c'est considéré comme une attaque.
Exactement, et c'est délirant parce que, voilà, je vais vous donner un exemple. Vous êtes un ingénieur important d'une boîte française. Vous avez emmené une grande partie du code source parce que sur le salon, le truc est encore en démo. Vous pouvez avoir, c'est pas encore bien testé. Vous pouvez avoir le soir, vous avez envie de faire des modifs parce qu'il y a eu une première journée qui s'est.
Il vaut mieux l'avoir dans le cloud alors.
Alors justement, oui, c'est un petit peu ça qu'ils nous ont raconté.
Enfin, j'aurais pu bosser à la DGS.
Excellent, leur ton père. Mais d'ailleurs, tu es à la DGS, je crois.
Et effectivement, ils nous ont dit que c'était arrivé. Je ne citerai pas les boîtes en question, mais c'était des boîtes qui se sont finalement très bien vendues en bourse, mais qui ont eu très très chaud parce que tout simplement, et ils étaient de mèche, hein, les mecs au contrôle, au moment où l'ingénieur clé met son laptop sur le tapis, le mec dit bip, attendez, il a le droit au nom du Patriot Act de prendre le laptop
et de faire un dump du disque dur.
Et effectivement, si jamais c'est crypté, tu es passible de cour martiale. C'est complètement délirant. Et évidemment, où va le code source après, tout l'écosystème américain de start-up, on en est là. Enfin,
il vaut mieux partir avec un portable vide.
Et accéder
depuis les États-Unis via un VPN et avec un système dans le cloud.
Si le système dans le cloud est américain, évidemment,
il vaut mieux éviter qu'il soit aux États-Unis.
Et si les Chinois,
il vaut mieux aussi éviter qu'il soit aux
États-Unis. Et si les Russes,
alors.
Oh mon Dieu, on en peut plus.
Vous parlez de cloud, ça me.
Pour rebondir sur ce que disait Postcarbone, parce que j'ai entendu parler de ça aussi dernièrement. L'anecdote venait par quelqu'un d'autre qui, lui, en passant la douane américaine, et enfin, faut pas se leurrer, la douane américaine a ce côté tout puissante, mais les douanes du monde entier ont des droits plus ou moins similaires un petit peu. Hein. Si des gens peuvent vous foutre à poil à un moment dans votre vie, c'est à la douane. Et donc, le type, on l'a retenu. Parce qu'il ne voulait pas donner le code PIN de son téléphone. Et donc, au bout de X heures, il a fini par donner son code PIN de son téléphone. 10 minutes plus tard, on l'a relâché. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il donne le code PIN de son téléphone. Donc, la douane passe un petit coup avec un logiciel qui fait le tour du téléphone, ramasse toutes ses données de comptes sociaux. Et voilà, la douane a tous ses comptes sociaux, donc peut accéder à toutes ses datas sociales répandues sur le net. Et donc, le papier qui en parlait rebondissait sur une solution équivalente. C'est ça, donc quand vous êtes si vous partez pour une boîte ou un machin au state avec un ordinateur portable,
faut y aller à poil.
Vous y allez, votre ordinateur, vous le videz, vous mettez tout sur le cloud, vous rechargez une fois arrivé là-bas.
Et limite,
le téléphone portable.
Mais est-ce qu'il faudrait pas carrément changer le disque dur aussi, parce que parfois il y a des traces.
Le téléphone portable, vous l'emmenez pas avec vous. Vous mettez pareil vos trucs sur le cloud. Vous achetez un truc qui vaut 3 francs 6 sous là-bas et puis vous rechargez vos comptes. Vous passez une demi-heure à recharger vos comptes une fois que vous avez passé la douane. Et voilà. Ah, quoi.
Bah, il y a un article qui est sorti il y a pas longtemps, c'est Kevin Mitnick, le hacker célèbre.
Ouais, le fameux
célèbre qu'on parle dans le film Hacker, justement. Oui. En fait, il explique
justement. Et dans Cybertrack.
C'est pas lui qui a été condamné, n'a plus jamais touché un clavier pendant 70 ans. Ouais. Un truc.
Alors, Cybertrack, excellent film, hein, on en a déjà parlé, mais donc, c'est sur l'aventure, son aventure personnelle au pauvre Kevin Mitnick.
Il a fait une publication la semaine dernière où il explique justement comment être anonyme à l'heure actuelle, en expliquant voilà, il faut acheter un ordinateur limite, comme dire, en pièces détachées, se connecter depuis le Wi-Fi du McDo, en fait, en expliquant payer en liquide, en faisant acheter son ordinateur par quelqu'un d'autre, parce que bah, sinon...
Ça devient complexe.
Oui, ça devient très complexe.
Tu vas à rue Montgalet, tu peux acheter l'ordi en pièces détachées, en liquide, quoi.
Oui, mais il faut acheter dans des boutiques différentes, il faut pas qu'on me dise...
Oui, c'est facile, ça.
Oui, et après, il faut que ce soit éventuellement qu'on voit pas que c'est toi, Mr. D, qui achète, parce que si jamais tu es sous surveillance, on pourrait très bien imaginer, après, me rendre dans des théories du complot ou autre, mais c'est...
Alors, je vous avais raconté l'histoire de cette Américaine qui avait voulu se faire passer, enfin, être anonyme sur le net,
et
elle a eu des problèmes parce qu'en fait, à force de se cacher, elle a été suspecte.
Elle a été flaguée.
Et elle a été repérée. Et en fait, c'était trop étrange d'avoir quelqu'un qui voulait disparaître sur tous les réseaux, et etc. Donc voilà, à vouloir se cacher,
il faut apparaître comme étant normal.
Tout à fait. Alors je voulais vous parler, c'est très intéressant.
Si tu es trop normal, la machine aussi s'inquiète. Elle est trop normale.
C'est comme quand tu croises les contrôleurs dans le métro. Enfin, moi, ça m'arrive.
Oui, parle-nous de tes expériences dans le métro.
Moi, je te contrôle direct.
C'est un peu le contraire. Moi, j'ai tendance à quand. Enfin, s'il y a un mec qui ne vont pas contrôler dans l'eau parce qu'ils sont un peu pressés ou pas, c'est moi.
Bon, alors je voudrais.
C'est exactement ça. Jérôme, je profite
que tu es là pour parler d'un truc. Mais Posty, tu dois connaître aussi le fameux. Tu connais le fameux Étienne Mineur. Tu sais qu'on a déjà vu dans cette émission.
Des éditions volumiques.
Des éditions volumiques que l'on salue.
J'espère qu'il va revenir.
J'espère qu'il va revenir aussi, qu'on salue. Et alors en ce moment, Étienne me nargue parce qu'il publie énormément de choses sur Facebook sur son magnifique Shadow. Le PC en ligne, le PC de gamer.
Ah oui,
en ligne.
On a parlé.
T'as entendu parler de Shadow. Il se trouve que notre ami Alex chez Idempest.
Il est très fier parce qu'il joue sur son Mac à des jeux PC.
Oui, un Mac de 2009. Un vieux Mac tout pourri. Alors justement, le Shadow, qu'est-ce que c'est un ordinateur que vous achetez en ligne, vous payez un abonnement mensuel, en gros c'est, si vous abonnez pour un an c'est 30€ par mois, et grâce à ça vous avez une bécane de compétition qui fait que 250 gigas de disque dur, mais vous recevez un boîtier avec des ports USB dans lequel vous pouvez brancher des disques supplémentaires et donc pouvoir installer plus de choses.
Il se trouve avec une petite réserve quand même.
Attends, on va finir de décrire le truc. Donc le Shadow, c'est un PC très puissant dans le cloud. Avec ça, vous pouvez jouer aux dernières versions des jeux PC qui ont le plus besoin de très grosses puissances.
Sacré Étienne.
Voilà. Et il se trouve que Étienne s'éclate avec Doom. Aujourd'hui, il s'éclatait avec Doom sur son vieux Mac. Je pense à ça parce que. Alors, tu avais une réserve sur ce.
Ta connexion internet fonctionne.
Voilà, le maillon faible.
Bien sûr.
Et deuxièmement, que tu as une bande passante et une latence de champion.
Il recommande de la fibre, mais il se trouve que Étienne a testé sur un ADSL classique et que ça marchait très bien. Bon, cela mis à part, je trouve que c'est une technologie d'avenir. Là où ça nous intéresse dans le sujet d'aujourd'hui. Quid de la protection de ces machines virtuelles, et surtout, vu qu'elles doivent être dans des racks de réseaux de machines, est-ce que les mecs ils sont pas complètement paranoïaques sur ce qui s'installe? Parce que pour le coup, c'est un PC comme un autre, tu peux installer ce que tu veux des virus tu veux.
En fait, même pas, c'est même pas un PC comme un autre, c'est des clusters de PC, et en fait, chaque machine virtuelle tourne sur l'ensemble des PC. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une machine virtuelle dans un PC comme tu pourrais l'imaginer, c'est un ensemble de machines dans des baies, et en fait, tout est virtualisé, enfin, je parle sous ton contrôle, tout est virtualisé, et en fait, chaque ordinateur virtuel tourne sur l'ensemble des bécanes.
D'accord, mais on a
donc, même pas de localisation physique des ordinateurs.
On a vu que le ransomware se répandait grâce à un système de verre sur d'autres machines d'un même réseau. Est-ce qu'on peut pas imaginer une attaque de pirates sur ce genre d'entreprise, tu vois, Shadow?
C'est quand même des machines virtuelles, elles sont quand même.
Voilà. Enfin.
Alors, en fait, il y a des problématiques comme ça où en fait tous les systèmes virtuels, on travaille beaucoup là-dessus avec tout ce qui est Docker, etc. Des systèmes de cloisonnement, c'est toutes les startups ne jurent que par tout ce qui est des mots comme DevOps, Docker. En fait, c'est du Inception. On fait des machines dans
dans des machines. Et il y a des, ce qu'on appelle de l'escalade de privilège, où c'est on sort de la machine virtuelle dans laquelle on est pour aller sur la machine qui est au-dessus. Et donc, on en vient aux règles de base qui sont, bah, faut mettre à jour son système. Et c'est un peu un jeu, on va dire, du cheval et la souris, où c'est, bah, les systèmes se complexifient, on rajoute, et il faut, bah, faire l'entretien. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est comme le tableau électrique. Au bout d'un moment, bah, des fois, il faut savoir faire table rase.
Oui, mais est-ce que, parce que si ta machine est mal entretenue et qu'elle se fait viruser, est-ce que dans le type de PC virtuel que sont les Shadow, est-ce que les mecs là-bas, ils risquent d'avoir leur bécane de manière générale infectée parce que t'as un mec qui, lui, a mal fait l'entretien de sa machine?
Si t'es le super administrateur avec le méga privilège et que tu te fais hacker la machine de base, oui, tout c'est
à
chaud,
fait.
Quoi.
Oui, c'est ça. C'est, en fait, c'est totalement possible. C'est, il suffit que, comment dire, s'il y a une personne qui reçoit un virus, on va dire, classique, traditionnel, ça va rester sur son PC et abîmer son PC à lui. Par contre, si le virus est suffisamment sophistiqué et sort de ce PC virtuel et va sur, en fait, dans les serveurs, oui, ça pourrait se répandre. C'est envisageable.
Alors, d'où une autre question. Quid, les amis, que pensez-vous du fait de stocker des données sensibles? Moi, par exemple, j'ai toutes mes photos de famille sur le cloud de Google. Alors, j'ai choisi...
Tu connais mon opinion là-dessus.
J'ai choisi Picasa, qui est devenu Google Photos, parce que Picasa était racheté par Google. Picasa est devenu Google Photo, il a été racheté par Google, et j'ai donc stocké toutes mes photos là-dessus. De plus, les photos de mon iPhone est backupé tous les soirs à heure fixe sur l'iCloud d'Apple. Ok, c'est quand même génial parce que il m'est arrivé donc des problèmes avec mon iPhone, il est tombé en panne, on me l'a volé une fois, etc. J'ai à chaque fois récupéré l'intégralité de mes données grâce au cloud. Maintenant, où est-ce qu'on en est au niveau de ces grosses boîtes, de la protection de ce cloud et du risque que ces données disparaissent?
Moi, il me semble que tout dépend de la nature des données. Plus elles sont critiques, plus je pense qu'il ne faut pas confier ces données à un tiers. Je pense que, alors, c'est certain que des grosses boîtes comme, je sais pas, Air Liquide ou ils doivent avoir leur propre data center. Je présume qu'ils maîtrisent eux-mêmes et qu'ils délèguent pas, par exemple, à Amazon Web Services.
Oula, enfin, si tu savais.
Je préfère pas savoir. Et puis,
on est là pour en parler ce soir.
Et puis pour les particuliers, et ça existe depuis très longtemps. Il y a des petits boîtiers, voire parfois avec des Arduino où en fait vous pouvez avoir votre propre serveur à la maison.
Oui, bah moi j'en ai parlé. Bien sûr, j'en ai.
Alors
je te rassure, lors de ton père, mes photos qui sont sur Google Photos sont aussi sauvegardées en intégralité sur mon NAS personnel. Mais
ça brûle chez toi.
Bah, j'ai quand même le cloud, donc ça serait quand même dommage qu'en même temps je perde et les données du cloud et les données physiques.
Mais je trouve que même, et je m'arrête après de causer parce que moi le sujet me passionne, mais même je vois en entreprise actuellement la grande théorie, c'est de dire à la plupart des entreprises, quelle que soit d'ailleurs la nature de l'activité, c'est de dire vous n'aurez plus de serveurs dans vos locaux, vous aurez que des serveurs dans le cloud et qui seront sécurisés, cryptés, fatra bidule machin, mais vous ne mettrez plus vos données chez vous parce que c'est dangereux.
Bah, c'est Dropbox.
Moi je trouve que c'est l'inverse.
C'est Dropbox. Bah, c'est ce qu'on utilise.
Moi, je trouve que c'est l'inverse. Moi, dans ma branche d'activité, où justement j'ai été à plusieurs conférences récemment, c'est pour ça que je suis un peu virulent sur le sujet, ils nous ont dit on va tout vous foutre sur dans le cloud, etc. On va même vous dire on va même vous inciter fortement à le faire. Moi, c'est fuck off. Moi, j'ai mes serveurs.
Les mecs.
Non, mais moi, j'ai mes serveurs chez moi avec des systèmes de backup et de réplication.
Il se chauffe les fesses l'hiver sur son serveur.
Il est hors de question que je confie mes données à quelqu'un d'autre. Et mes données, malheureusement, c'est comme ça pour tout le monde aujourd'hui. Les données, c'est encore notre fortune. Enfin, c'est ce qui fait que c'est notre cœur de business.
Tu sais qu'au moment du perçage de la bulle Internet au début des années 2000, tu avais des sites de stockage de photos qui avaient monté beaucoup en popularité en bourse, qui se sont écroulés et du jour au lendemain, les gens ont perdu
leur données. Mais c'est pour ça que j'ai choisi et Google en espérant que Google, ça soit quand même pas une entreprise qui disparaisse et que j'ai choisi iCloud d'Apple par rapport à la solidité, on va dire, de ces deux entreprises. Mais en effet, ça ne m'interdit pas de faire aussi un backup personnel. Bon, d'après toi, Jérôme, est-ce que c'est la bonne solution? Il faut avoir ces données dans le cloud plus une sauvegarde perso. Ça paraît suffisamment sécurisé à ce niveau-là?
Alors, en fait, là, moi, j'enseigne, parce que quand je fais partage, je donne des cours d'hygiène numérique. Ce que j'explique, c'est que une bonne sauvegarde, c'est la règle des 3-2-1. C'est avoir 3 copies donc 3 versions du document. Le document principal, par exemple, sur son PC, sur le Mac de Mr. D. On va avoir 2 copies à côté. En fait, on va synchroniser 2 à 2. C'est-à-dire que si jamais je fais un système de synchronisation et que ça foire, j'ai toujours la 3e copie qui, en fait, elle, est à côté. Parce qu'on fait souvent des systèmes de réplication avec.
Ouais, mais alors ça représente des téraoctets de sauvegarde. Parce que moi, par exemple, qui commence à faire.
Il
n'y a pas que ça, mais je te donne un exemple très simple. Pour les Nuo Max, depuis déjà quelques temps, je fais des pré-shows qui durent 30 minutes. Ces pré-shows, je les fais en DCP. Donc le DCP, c'est en gros 40-50 gigas, puisque c'est du 200 mégabits seconde, par présentation. Et d'un seul coup, ça fait un tera, enfin en quelques semaines, tu vois, sur quelques bonus, je me suis retrouvé à avoir des centaines de gigas de DCP que j'ai pas envie de foutre à la corbeille parce que c'est quand même du backup.
Il faudra bien
y
venir.
Et ça prend une place absolument démentielle, quoi.
Mais c'est comme les papiers à la maison, on veut jamais les jeter. Il y a des jours où il faut prendre la.
Alors c'est ça aussi l'hygiène numérique, Jérôme, c'est de savoir jeter.
Oui, c'est aussi de savoir jeter, parce que donc pour revenir avec les sauvegarde, c'est avoir donc trois copies, dont une externalisée. Et l'externalisée, ça va être donc le mettre soit sur du cloud, mais il y a d'autres problématiques qu'on pourrait éventuellement aborder, où justement on va pouvoir, idéalement, c'est avoir un NAS chez quelqu'un de confiance. Donc on a un NAS chez soi.
Chez Captain Web.
Et on a un NAS chez ses parents ou un ami de la famille, et on peut mettre en place assez facilement des systèmes de synchronisation où ça va copier de mon PC sur le NAS et copier sur le NAS qui est chez mes parents. Donc du coup, si ma maison brûle ou se fait cambrioler le
autre, pourrais avoir un NAS à la campagne. Alors,
j'ai un NAS à l'extérieur.
Tu veux pas ouvrir un data center?
Tu pourrais, il a la place.
Pour en venir à la problématique, en fait, pour en venir à la problématique de la sécurité, ce qu'il faut savoir, c'est que si on ne veut pas qu'une donnée soit accessible, il ne faut pas la mettre au format numérique. Parce que une donnée qui est quelle que soit, c'est une donnée numérique sera accessible forcément un jour.
Oui, mais il y a des choses qui ont plus ou moins d'importance. Oui. Enfin, je suis d'accord que les photos de mes enfants sont extrêmement prioritaires dans ma vie, mais ça va pas intéresser grand monde. Si ça peut intéresser des gens, mais pour des tas de raisons. Mais ce que je veux dire, c'est que
c'est vrai que j'ai de ma raison, les photos de cul, il faut les garder au format papier.
C'est ça.
C'est ça. Et après, il y a le côté archivage. Bah, on a les problématiques.
Ils ont ressorti lui, par exemple.
Ouais. Avec les images de la NASA ou des choses comme ça, où c'est la pérennité des données dans le temps. C'est, on le voit avec l'évolution. Bah, si on retrouve une vieille disquette avec des documents Word dessus, est-ce qu'on peut encore les lire à l'heure actuelle?
Tu as raison, et je pense que dans l'avenir, on se posera cette question-là. Il y aura une entropie, un problème d'entropie des données informatiques.
Il y a la pérennité du support, où là, on réfléchit à est-ce qu'on ne va pas graver des Blu-ray dans.
Ah oui, mais d'où l'intérêt du cloud, justement.
Oui, mais le cloud, c'est le. Il faut.
Ça peut être le noyau d'une vie numérique, le cloud, qui te permet de faire évoluer les supports de sauvegarde. Moi, par exemple, sur mes NAS, j'en suis à mon troisième NAS différent, parce que j'ai commencé il y a une dizaine d'années à avoir un vieux NAS qui depuis a disparu, et c'est quelque chose que je change tous les 3-4 ans. Je passe à un nouveau serveur pour backuper. Bon, en plus, les disques durs explosent en matière de capacité, donc à chaque fois que je prends un nouveau NAS, je double pratiquement ma capacité, et donc ça me permet de backuper ce qu'avait l'ancien et de passer l'ancien un peu à la poubelle.
Mais il y a un autre problème aussi, c'est par rapport à certains types de données, c'est le fait d'avoir toujours les logiciels qui permettent de les exploiter.
Ah oui, bien sûr.
Et même à supposer que tu aies les logiciels qui permettent de les exploiter, encore faut-il le système d'exploitation et la machine qui puisse permettre de le faire tourner.
C'est pour ça que j'ai énormément de vieilles machines.
On le voit avec les vieux jeux DOS qu'on aimait tant, par exemple le premier Civilization qui pour moi reste un jeu mythique. Tu ne peux pas le faire tourner à moins d'avoir une sandbox DOS qui permet, parce que les machines vont beaucoup trop vite. Et donc il faut maintenant créer des machines virtuelles qui vont faire tourner des programmes DOS qui se ralentissent elles-mêmes pour que le truc puisse tourner.
Posti. Bon.
Non, mais c'est juste, alors excusez-moi de vous interrompre, moi j'aurais deux trucs à raconter dans le militaire, mais je les place quand
vous
voulez
dans
la
conversation.
D'abord, des fois, c'est pas seulement des pirates qui font des ransomware, c'est les États. Alors par exemple, j'ai une histoire que je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc l'Iran développe un programme nucléaire, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, au Moyen-Orient, on sait que ça va à terme devenir une des puissances nucléaires importantes, au même titre qu'Israël. Et ce qui s'est passé, c'est qu'Israël et les États-Unis ont développé donc des virus informatiques industriels qui sont allés mettre dans tous les centrifugeuses, là, tous ces endroits où. Parce que chaque année, l'Iran gagne en qualité d'uranium.
Ils avaient fait planter les systèmes uraniens.
Absolument. Et donc, il va y avoir un moment où ils vont atteindre la qualité d'uranium critique pour faire des bombes, tout bêtement. Et chaque année, ils gagnent 2-3%. Alors, je ne sais plus à combien. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est affiché quasiment par les scientifiques américains et israéliens. On sait qu'à une date donnée, a priori, donc, ils ils auront la bombe. Et donc là dans ce cas-là, c'est carrément un effort de gouvernement pour écrire de quoi bloquer, enfin pas bloquer mais ralentir. En fait, ce qui les intéresse, c'est que au lieu qu'il l'aide dans 3 ans, c'est qu'il l'aide dans 8 ou dans 9. Il y a toute une stratégie, c'est ça que je veux dire autour de ça, c'est assez impressionnant.
Ça s'appelait Stuxnet. Et d'accord, justement ouais, en fait le problème avec le WannaCry, c'est aussi justement il y a une réflexion, c'est pas un état qui est derrière, parce qu'on a atteint un niveau de complexité tel au niveau de la construction du virus, on a vu là, il faisait le crypto ransomware et c'était en même temps un ver, etc. Le système évolue, que est-ce que c'est pas en fait
ça pourrait pas être des mafias.
Ça pourrait être soit des mafias, donc ça peut être des mafias à l'ancienne, soit comment dire des États. Donc il y a et après y a, donc on parle de maintenant de il y a la quatrième armée, donc il y avait l'armée de terre, de l'air.
Jean-Luc Mélenchon qui en parlait d'ailleurs pendant la campagne présidentielle de créer un quatrième corps d'armée. Ouais, on en parle, une force cybernétique.
Oui, on le voit parce que donc en fait il y a une guerre de l'information qui existe à l'heure actuelle avec on a vu avec le côté campagne politique sur jouer sur la désinformation où il y a pour faire élire donc
c'est sûr,
Donald
on en a
Trump
pas parlé, mais oui en effet il y a eu énormément de choses là-dessus et ça continue d'ailleurs
donc il y a eu les Macron leaks ou juste puis il y a toute une éducation, on vient à l'hygiène numérique à éduquer les gens à comment dire ce qui est sur Facebook n'est pas forcément vrai parce qu'il y a des gens qui croient. Oui, c'est il y a la bulle de filtre dans laquelle on nous met. Donc
j'aurais un tel ex à vous raconter d'ailleurs là-dessus, mais j'en parlerai dans la prochaine émission.
Et on en vient aussi. Donc j'avais noté un petit truc. C'était, je vais retrouver le mot. Oui, c'est on parle maintenant d'OIV en fait. C'est les opérateurs d'importance vitale. Donc il y a tous les États maintenant ont une liste de systèmes ou autres. Ils disent voilà, par exemple, EDF, comment dire, c'est un opérateur d'importance vitale et que si jamais l'internet ne marche plus ou autre, il faut le téléphone ne marche plus parce que tout est interconnecté avec les compteurs.
Alors, il paraît que le cybercafé du Captain Web est aussi un OIV.
Tu sais que par exemple, si EDF s'arrête, c'est hallucinant, on n'a plus l'eau courante. Aujourd'hui en ville, c'est des pompes électriques qui pompent dans les nappes phréatiques, qui pressurisent la flotte à ton robinet d'eau. Et si un jour tu as un arrêt de centrale trop important.
C'est comme dans Ravage de Barbara.
T'en arrives là. Ah si, et il y a un truc moi que j'ai trouvé, c'était presque hilarant tellement c'est balèze, c'est la maîtrise russe. Dans le domaine des interceptions, notamment de drones. Et vous avez une vidéo qui traîne qui est absolument hallucinante. C'est un drone de combat américain qui doit coûter 200 millions de dollars, à peu près. Et alors, les Américains, tu sais, c'est toujours le petit jeu, ils se mettent à la frontière, etc.
C'est pas un parrot, tu veux dire.
Non. Et là, ce qui est rigolo, tu vois les Russes hilar, ils appuient sur un bouton, et en fait, tout d'un coup, le drone devient un toutou des Russes. Et alors, le truc qui coûte 150, et il atterrit comme une fleur sur la base soviétique, tu vois les mecs en train de se bidonner, et avec les tournevis, ils font coucou à Obama, c'était sous Obama, ils ouvrent le capot, tu vois marqué Lockheed Martin, enfin le truc qui a coûté aux contribuables américains, tu vois, un bras, un rein et une main, et les mecs, c'est parti, ils sont dans les FPGA, les ASIC, les trucs, les machins, et en tout cas, la Russie a mis au point un nombre de contre-mesures, je ne sais pas expliquer dans comment ça marche, mais ils sont capables par exemple d'amener une frégate au large d'un endroit clé
et
de récupérer les données, les objets qui se déplacent, les drones, etc. Enfin,
on a la sensation que les Russes sont devenus un peu les maîtres du hacking.
Ils sont pas mauvais.
J'interroge à la fois notre invité et Post-Carbone et les Français. Est-ce que c'est des tocards ou pas?
Moi, je sais pas répondre à ça parce que j'avoue.
Jérôme, t'en penses quoi? Les Français, on est bien placés en matière de
est-ce qu'on est mal barré?
Les Français, il y a des bons, mais c'est vrai qu'on
manque de moyens.
Bon, on manque de moyens. Ouais. Après, il y a des choses comme la nuit du hack qui existe. On voit qu'il y a quand même une scène française de hackers où là, il y a des gens qui sont très bons. Il y a des magazines dédiés où on met par exemple des images où il y a des challenges où on voit qu'à partir d'une simple image, il va falloir étudier le code hexadécimal. Ça donne l'adresse d'un site internet qui va nous donner en fait on renvoie etc. Et c'est du recrutement pour justement la cyberdéfense qui se passe comme ça.
Mais des fois on est aussi des toutous quand même. Je suis désolé de peut-être passer dans le complotisme. On va peut-être me le reprocher dans les commentaires. Mais vous avez en face de l'Élysée, vous avez un bâtiment qui est l'ambassade américaine. Et vous avez des bâches au-dessus du bâtiment.
Ça cache des antennes.
Vous savez ce que c'est? C'est des antennes tournantes. Et ils sont en train d'espionner tranquillement l'Élysée, Matignon. Ils sont à 100 mètres. Et franchement, est-ce que vous croyez que l'ambassade de France À Washington aurait le droit de foutre des bâches et des antennes tournantes. Là, on n'est même plus dans la technologie, je suis désolé. On est dans de la.
De la naïveté.
Ça va faire mon petit côté UPR, je m'excuse. Mais là, pour le coup, on est dans une vassalité de l'Amérique, puisque c'est pas, la réciprocité n'est pas vraie. Enfin, voilà. Et je vous promets, vous trouvez, tapez ça sur le web, ambassade américaine.
Bon, bah, vas-y, c'est négatif.
Non, mais tu peux avoir des techniques d'enfumage.
Les ambassades et légations soviétiques aux États-Unis étaient aussi des vraies nia-antennes par le passé.
Les amis, on va pas épiloguer parce que là l'heure avance. Herbie, est-ce que tu as quelques livres à nous proposer? Alors on va mettre ton jingle et on va écouter la sélection de livres de Herbie. Herbie, des bouquins à lire, s'il te plaît, maintenant, tout de suite.
Okay, on en veut plein. Alors, je balance quand même un petit mot de manière générale sur les films et séries télé qui ont une représentation de l'informatique et de tout ce qui est hacking et compagnie désolante, on va le dire.
Hein, pas toujours.
Personne ne s'intéresse, c'est bien.
Ouais, Mister of Robot est très bien, c'est assez bien documenté. Enfin,
le nombre de séries et de films qui représentent les choses à peu près correctement se compte, sur les doigts d'une main. Alors que...
le meilleur, c'est quand même le film avec Sandra Bullock. Hein. Vous vous souvenez de ce film quand
même. Il s'appelait comment déjà?
Track sur Internet.
Là, c'était, tout était vrai.
Ouais. Enfin, moi, j'ai quand même Hackers aussi dans les années 90 qui faisaient bien rire. Bon, bref.
Voilà. Et enfin, dans ce registre-là, j'ai quand même une petite pensée pour un film des années 90 qui s'appelait Les Experts. Robert Redford.
Il était correct celui-là.
Et qui non seulement était correct, mais pour l'avoir revu il y a un ou deux ans, il était très très visionnaire sur le poids de l'information et la richesse que représente l'information.
Donc, bref, les séries.
Passons au bouquin. Alors, il y a évidemment, on ne peut pas ne parler de ça sans parler un petit peu de cyberpunk.
Bah oui.
Donc, évidemment, évoquer un peu la trilogie de William Gibson, le roman ancien, Compte Zéro et Mona Lisa s'éclate.
Tout à fait.
Il y a quand même beaucoup question de hacking, de ce genre de choses. Mais moi, j'avoue que je reste. Toujours, pour moi, un cran malgré tout au-dessus de tout ça, il y a toujours Snow Crash, alias le samouraï virtuel de Neil Stephenson, qui est vraiment une belle claque en la matière, qui non seulement crée l'univers aussi un peu, rebondit un peu sur cet univers cyberpunk, mais en plus amène une nervosité dans l'intrigue et qui finalement va un peu n'importe où. Et surtout là où on l'imagine pas, là où on l'attend pas, et ça va à 100 à l'heure et ça va dans tous les sens.
Alors,
et avec des idées quand même derrière qui sont assez intéressantes.
C'était édité chez Bragelonne, Snow Crash. Ouais. Je me souviens, je m'étais bien galéré sur la couverture à l'époque. C'est chez qui maintenant?
Ben, je me demande si.
C'est en poche, non?
Il n'y a pas du. Si... Ouais, je ne sais pas si le livre de poche est à nouveau ou pas. J'avais vu passer une version numérique, je crois aussi, peut-être. Et je ne sais pas trop où est passé l'ouvrage à l'heure actuelle. Mais alors c'est vraiment pour ceux qui veulent faire du cyberpunk et qui ont fait nos romanciens, qui cherchent autre chose, il faut passer par cet ouvrage là c'est l'autre incontournable du domaine. Pour rester aussi chez Neil Stephenson, parce que c'est les questions de cryptage et autres, c'est des questions qui l'ont beaucoup travaillé.
Il y a un format numérique pas cher.
Il a écrit un autre pavé qui s'appelle Cryptonomicon, qui avait été publié en France d'ailleurs en trois parties, qui sont peut-être encore trouvables au livre de poche. Cryptonomicon, là, une série qui se passe dans le temps présent ou de proche avenir, et en partie aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc on a un petit peu toutes les problématiques de décryptage pendant la Deuxième Guerre.
Oui, c'est au livre de poche, je te confirme.
Dans notre époque moderne, l'héritage de ces problématiques de cryptologie se retrouve notamment sur la crypto-monnaie. Donc on est, c'est un bouquin qui date de la fin des années 90, donc on est un peu sur l'ère de c'est le proto-bitcoin, entre autres. Qui est développé là-dedans, et on a beaucoup de réflexions sur le cryptage, les différentes formes. Il y a plein de solutions qui sont intéressantes de donner, de le faire notamment avec un jeu de cartes rangé dans un ordre particulier, ou aussi de ce qu'on appelait, je crois que c'est le freaking, la technologie qui consistait à pouvoir lire l'écran d'un ordinateur, en fait, en se basant sur les ondes émises par les écrans cathodiques, ou non d'ailleurs. Et de pouvoir relire et de voir comme ça un personnage qui se retrouve coincé dans une cellule de prison avec son ordinateur et d'avoir conscience que l'autre côté du mur on suit ce qu'il fait sur son écran. Donc il va écrire en aveugle sur son ordinateur et il va lire les données sur la petite diode de arrêt des fils qui sert à strictement rien et qu'il utilise comme mode de sortie de son...
Un peu comme Morse, un peu voilà, en Morse.
Ah, c'est marrant. Donc les trois tomes de Cryptonomicon, c'est le code Enigma, le réseau Nikakuta,
Kinakuta,
pas facile à prononcer,
Golgotha.
Et Golgotha, voilà. Et les trois sont en livre de poche disponible chez nos amis revendeurs d'Amazon.
William Gibson a sorti récemment une nouvelle histoire en deux tomes, je crois, de mémoire. Qui est pas du niveau, je trouve.
Moi, j'avais lu un de ses romans précédents qui était, je crois, ça devait être Source Code ou un truc comme ça, et que j'avais trouvé assez décevant aussi. Alors, chez Neil Stephenson, qui n'est pas disponible en français, mais où il retrouve un peu on est d'ailleurs dans le même univers que Cryptonomicon, il y a le Baroque Cycle, trilogie de trois énormes pavés qui se passe, on va dire, de 1660 à 1715 à peu près, et on suit notamment Newton, Leibniz, toute la politique européenne de l'époque, c'est le siècle de Louis XIV, la politique du Royaume-Uni, et entre autres, là aussi se trouve la question de la monnaie et la question du cryptage, de comment s'envoyer des messages, et donc la cryptage qu'on peut se faire par lettre de l'époque, mais aussi...
Non, mais c'est pas en français, tu dis.
Non.
Ça va être compliqué pour nos lecteurs.
Le cryptage par la broderie.
Ah, pas mal.
C'est bon,
en fonction de la façon dont vous faites vos points de croix.
Très bien.
Voilà, par exemple, comment crypter ces données.
Neil Stephenson, un auteur à suivre.
Voilà. Alors, sinon, pour aller ailleurs, loin dans l'espace et dans le temps, je peux vous recommander quand même Un feu sur l'abîme de Werner Vinge, que j'ai déjà évoqué par le passé. C'est un très grand space opéra.
Et qui est dur à lire.
Qui n'est pas évident à lire, mais qui est très très riche, et dans lequel Vinge, qui a écrit des space opéras assez marquants, mais qui est aussi un petit peu connu pour avoir... qui est un des promoteurs, on va dire, du concept de singularité technologique. Et dans Un feu sur l'abîme, on voit... Alors, c'est un bouquin des années 80... Au début des années 90.
Et puis, il faut réussir à passer les 100 premières pages, hein, parce que c'est hardcore.
Moi, je trouve que ça descendait pas trop mal, quand même. Et
si tu aimes le gros...
Du gros space opéra, avec des idées et des vrais morceaux dedans. On trouve notamment...
Vrais morceaux de vaisseau.
C'est un bouquin qui date du début des années 90 et on a l'équivalent de l'internet à l'échelle galactique, à une époque où nous on connaissait encore assez peu le net chez nous, et on voit déjà comment à l'époque les rumeurs et les mensonges se propagent. D'ailleurs, c'est surnommé le réseau du million de mensonges, si je me souviens bien. On voit aussi d'ailleurs comment les messages se transmettent de langue en langue, parce qu'il y a plusieurs langues utilisées même au niveau galactique, donc on voit le chemin de traduction qu'a suivi le message pour arriver jusqu'à l'utilisateur final. Et on voit aussi dans cet univers, on suit des gens qui ont comme activité finalement l'archéologie informatique, puisqu'on est dans un monde dans lequel les civilisations ont des centaines ou de milliers ou des millions d'années, et on se retrouve justement cette problématique du stockage de l'information, de la transmission, de sa préservation, et de pouvoir aussi relire dans l'avenir l'information du passé. Et finalement, on a la même problématique qu'on a aujourd'hui quand on gère les historiens et spécialistes avec les vieux ouvrages qui ont des bouquins qui doivent être entretenus dans des conditions d'hygrométrie, de température précise pour pas trop s'abîmer, et qu'on ouvre une fois tous les 36 du mois parce que sinon on va flinguer le bouquin à force de le regarder. On a les mêmes problématiques sur le numérique. Et Vinge met ça en scène de façon assez intéressante. Donc, quand on se pose la question de savoir comment on va évoluer en termes de stockage d'informations et comment on va galérer ensuite pour retrouver cette information, c'est un bel éclairage en la matière. Alors ensuite, enfin pour terminer, je vous donne une petite anecdote que certains connaissent déjà, qui concerne George R. R. Martin, l'auteur du célèbre Trône de Fer, connu aussi sous le nom de Game of Thrones par l'adaptation télévisée. George Martin, donc, qui a commencé à écrire cette série au milieu des années 90, là, grosso modo, mais qui en écrivait depuis la fin des années 70. Nous sommes en 2017 et George R. R. Martin utilise toujours un ordinateur tournant sous DOS et écrit sous WordStar 4.0. Oh, donc
il a bien raison.
Les sources sont bonnes, c'est un traitement de texte qui date de 1987, donc il y a 30 ans cette année. Oh. Voilà, c'est le système sous lequel George Martin écrit son sixième volume de sa série, dont nous attendons toujours la sortie avec une certaine impatience pour ses lecteurs.
On comprend mieux pourquoi.
Voilà. Et donc voilà, donc un ordinateur qui n'est évidemment pas relié à Internet.
Ah oui.
Et donc, qui ne risque pas trop l'attaque au ransomware.
Alors, il enregistre son truc sur une disquette.
Ben oui.
Et son éditeur, il a dû garder un truc.
Ah bah, il a quelqu'un, il a un assistant qui
qui retape,
peut le dépanner, etc. Et donc effectivement, comme tu le fais remarquer, pour faire sortir ensuite le manuscrit vers l'éditeur, il y a un petit travail de conversion à réaliser qui ne doit pas être de tout repos.
Une imprimante matricielle, et puis après on rescanne.
Un mec qui retape, quoi. Ou qui scanne, ouais. Avec un petit OCR.
Pour faire mon herbie, moi je conseillerais un livre de Mark Ellsberg qui s'appelle Blackout, dont en fait le scénario c'est avec tous les compteurs connectés, en fait il y a quelqu'un qui arrive à pirater les compteurs connectés.
Ah, les Linky.
Et donc en fait ça fait ça coupe tous les compteurs, ils se relancent d'un seul coup, donc c'est du côté de l'Italie, et ça fait un effet de cascade au niveau de l'Europe où en fait il y a une surcharge au niveau des centrales nucléaires et elles tombent les unes après les autres. Et en fait il y a une réflexion sur en quelques jours ça devient l'apocalypse, parce qu'il n'y a plus, dès que en fait les centrales se relancer, les compteurs se remettent en route et du coup bah, ça fait des surcharges. Et donc il y a une enquête par le policière pour savoir d'où vient le fameux piratage en question, avec en parallèle le monde qui sombre dans un monde apocalyptique en quelques jours.
D'ailleurs tu sais que la vraie fragilité des centrales, c'est pas que au niveau du plutonium, etc. Dans chaque centrale, il y a un aspect transformation de tension. Et ces trucs-là, c'est des gros transfos qui sont explosifs potentiellement si effectivement on ne fait pas attention à la façon dont on les charge. Et tous les experts savent que là, il y aurait une attaque possible. Ouais, absolument.
C'est
basé sur des choses réelles.
C'est ce qui se passe en hiver où on dit attention, là il va y avoir des surtensions, donc on achète du courant en Allemagne. Et, puis, et là, on imagine qu'on coupe tout d'un seul coup. C'est un peu comme chez soi. On a son four, son micro-ondes, voilà, des disjoncteurs. Voilà. Sauf que c'est à l'échelle du central nucléaire. Voilà, donc Mark Ellsberg, Blackout, un livre que je recommande.
Bon bah merci les amis, merci Herbie pour cette sélection de livres. Merci, on va conclure avec Jérôme sur, on va répéter rapidement les lois, les grandes lois de l'hygiène numérique. Alors lentement, tu prends ton savon,
et on frotte.
Et tu frottes, c'est parti. Alors
faire ses mises à jour,
ouais.
Pas de logiciel craqué, idéalement un mot de passe différent sur chaque site ou avoir des mots de passe un petit peu longs.
Des sauvegardes.
Donc 16 caractères, c'est idéal. Des sauvegardes.
Des sauvegardes. Et puis bah, les règles classiques qu'on connaît tous sur pas cliquer sur n'importe quoi, pas croire qu'on a gagné à la loterie Bill Gates.
Ah ouais, les scams africains.
Est-ce que je peux faire mon prédicateur de l'apocalypse?
Vas-y.
Non, mais c'est juste en quelques mots. Qu'est-ce qui va se passer avec toutes ces technologies d'intelligence artificielle dont le potentiel devient de plus en plus hallucinant? Ah oui. Et donc, comme tous ces trucs-là, là, ces virus, ces machins, pour l'instant, on a parlé beaucoup d'algorithmes en fait à l'ancienne, quelque part, qui étaient faits dans tous ces McAfee et tout ça. Mais quand les mecs vont commencer à pervertir le truc avec la puissance
du deep learning,
peut-être, voilà. Non, non,
ou
mais
des IA qui vont nous attaquer.
Mais non, voilà. Par exemple, des IA qui pourraient nous nuire, mais ça pourrait être d'une puissance 1000 par rapport. Enfin bon, voilà, je ne sais pas.
Bah, tu as raison.
Ressortez le stylo et le bout de papier.
Ça peut être impressionnant.
On va terminer sur cette note tout à fait apocalyptique qui nous sied bien. On va remercier Jérôme d'être venu.
Merci à vous tous.
Merci. Et puis, merci Posty. Merci Herbie. Merci Lord Ton Père. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission spéciale Telex où nous aurons des choses passionnantes à vous vendre. Et à vous raconter. Et en attendant, n'hésitez pas, 5 étoiles sur iTunes.
Insultez-nous, mais
le site des nuits au max, hein, pour aller acheter les places pour les nuits à venir.
Vite ta thune.
Et les virus dans les futures bagnoles autoguidées.
Les virus dans les nuits au max. Ça, il faut que j'y pense. Allez, bonne soirée. À bientôt, les amis. Ciao.